Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan Large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, eux comme Everson, Kevin Jerome Everson, avec lui-même et Marcos Udall. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Les derniers Oscars, et notamment celui du meilleur film attribué à Green Book, l'ont encore montré. Le Festival de Locarno annonce reporter sa rétrospective Black Edwards pour braquer les projecteurs cet été sur le Black Cinema. C'est dire si la présence de réalisateurs et de récits afro-américains, tant à Hollywood que dans les cercles les plus prestigieux du cinéma indépendant, reste une question plus urgente que jamais. Or, loin de ces débats, refusant même d'en faire une action militante affiché, avec déjà plus de 160 films en moins de 20 ans qui prennent le contre-pied de toute convention narrative et de tout cliché de représentation des Noirs à l'écran, un cinéaste filme inlassablement les faits et gestes des travailleurs noirs américains dans leur quotidien de labeur et de loisirs. Il s'appelle Kevin Jerome Everson, retenez ce nom car vous en réentendrez parler, avec des films allant d'une minute à 8 heures, utilisant aussi bien la pellicule que l'image numérique, le noir et blanc que la couleur, il donne à voir ce que le cinéma montre peu, sinon jamais, des Afro-Américains qui ne sont ni des victimes recluses dans des ghettos criminogènes, ni des super-héros. Comme l'écrit le spécialiste du cinéma noir international Greg DeCuir Jr., cette remise à zéro des règles de représentation correspond à une volonté d'éviter tout exceptionnalisme, celui-ci n'étant souvent rien d'autre qu'une habile ruse sociale utilisée afin de catégoriser et supprimer les masses. Le temps est venu d'un esthétisme de l'ordinaire noir, dont Everson est le grand prêtre. C'est au festival Cinéma du Réel, dont la 41e édition s'achève demain et qui lui a consacré une vaste rétrospective cette année, que nous devons la découverte de cet artiste complet, également photographe et sculpteur, dont les films, faussement naturalistes et même largement mis en scène, sont autant de jalons essentiels dans l'histoire de la représentation du peuple noir américain. En fin d'émission, Marcos Udall évoquera un autre film qui fit date en son temps, en 1958, une simple histoire du plus méconnu des grands cinéastes français Marcel Hanoun, mais pour leur rencontre donc avec Kevin Jerome Everson, quelque part entre l'Ohio, la Virginie et le Mississippi, ses propos sont traduits par Xavier Combes. Kevin Jerome Everson, bonjour.
Hello.
On pourrait commencer par aborder votre très abondante filmographie par sa géographie. Quand on regarde vos films, les lieux de tournage se partagent entre l'Ohio, Cleveland, Mansfield, la Virginie, Charlottesville, et puis le Mississippi, et notamment la ville de Columbus. En quoi cette géographie éclatée recoupe votre propre histoire et également votre histoire familiale ?
For me, it's just easy, the film, where I live.
On va dire, c'est l'aspect pratique qui prévaut. Je filme là où je vis et là où je connais des gens, les gens de ma famille. Et puis ce sont des paysages, des lieux que je connais bien, dans lesquels je suis investi. Il y a l'Ohio, où j'ai grandi, où je suis né, et il y a des films qui portent sur la société afro-américaine, ouvrière, donc je sollicite des gens et des paysages que je connais bien.
Ce que racontent vos films, de fait, ce sont des histoires de migration intérieure, on pourrait dire. Il me semble, si j'ai bien compris, que votre famille, originellement, vient du Mississippi, qu'elle s'est installée à Cleveland, comme beaucoup de Noirs américains qui sont partis du sud des États-Unis pour aller chercher des emplois industriels, on suppose, dans le nord. Et vous-même, vous avez fait le trajet inverse, de revenir vers le sud des États-Unis.
Oui, ma famille est donc venue du sud pour aller à Mansfield, dans l'Ohio, vous l'avez dit. Et mes premiers films portaient sur cette migration du sud vers le nord. Il y a un film qui s'appelle Company Line, et il y a un personnage qui dit « on va vers le nord pour s'en sortir mieux du point de vue économique, social ». Et puis, sur le plan de l'éducation, les écoles du Nord étaient mieux cotées que celles du Sud. Mais bon, en réalité, les choses ont mal tourné et du point de vue racial, les relations étaient encore plus difficiles dans le Nord qu'en le Sud. Et moi, je m'en suis rendu compte et je me suis rendu vers le Sud où il fait plus beau. D'ailleurs, il faisait un peu trop froid dans le Nord pour moi.
Je crois que votre père était mécanicien. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué dans votre enfance, parce qu'on sent qu'il y a chez vous aussi ce côté mécanicien, ce côté bricoleur, et que ça se ressent dans vos films.
Yeah, my dad was a mechanic, mom was a bank teller.
Oui, mécanicien. Ma mère était employée de banque. Et l'histoire de l'automobile chevauche l'histoire des États-Unis au XXe siècle, à mon avis. Donc, l'industrie, le voyage, les déplacements. Vous savez que aux États-Unis, il y a très peu de trains, donc les gens prennent bien souvent, peut-être trop souvent, leur voiture. Mais dans les emplois, ce sont des emplois industriels, dans les usines de montage des voitures. Donc ça, c'est un moteur économique, si vous me permettez cette métaphore. On retrouve ça dans le Michigan, dans l'Ohio, dans l'Indiana et dans l'Illinois.
Vous avez fait des études d'art, vous êtes sculpteur, vous êtes photographe, vous avez beaucoup de pratiques artistiques. Quand est-ce que vous êtes dit que le cinéma serait une forme d'expression pour vous?
I come from the kind of studio arts, as we call in the United States.
Oui, on appelle ça les arts de studio, de l'atelier aux États-Unis. Et donc la sculpture, la peinture et ainsi de suite. Les gens qui travaillent dans un atelier. Mais le cinéma m'est venu de la façon suivante. Je faisais des sculptures liées au mobilier, des espèces d'objets, de meubles, mobilier, et je voulais expliquer comment les gens travaillaient à la construction de cela sur les chaînes de montage et ainsi de suite, comment les consommateurs achetaient cela. Donc en réalité, il y avait une espèce de processus que je voulais décrire au fil du temps en faisant ces sculptures d'objets liés au mobilier. Je me suis rendu compte que le cinéma, c'était plus approprié pour décrire cela. D'où, là je réponds à votre question, cette notion d'être mécanicien. On répare des trucs, on construit des trucs, on bricole. Et moi, je suis un petit peu comme un ouvrier dans une usine. Je sais faire plusieurs choses, mais en réalité, qu'est-ce que je fais? Ben, je bricole des trucs, quoi, voilà.
C'est-à-dire que pour vous, le cinéma, c'est le temps avant tout, et c'est comme ça que vous l'envisagez.
Oui.
Le temps, la durée de vie des choses. Ça, c'est mes premiers films. Puis je m'intéresse aussi aux matériaux. Puisque je tourne beaucoup en 16 mm. Donc, en 11 minutes, on arrive à 130 mètres de film. Donc, j'aime bien cette durée. J'aime bien cette plage de temps. C'est un petit peu ce à quoi je m'astreins comme durée idéale. Alors, j'ai quelques films de 8 heures aussi. Mais au sein de cette structure, tout doit se produire dans une durée de 8 heures de travail, le travail d'une journée. Donc, effectivement, le pas de temps joue un rôle très important.
Oui, le film auquel vous faites référence est notamment Park Lanes, ce film que vous avez tourné qui retrace une journée de travail. Donc il dure 8 heures comme la journée d'un ouvrier dans cette usine qui fabrique du matériel pour bowling. Mais vous faites des films de durée extrêmement variable. Il y en a certains qui ne font qu'une minute. Quand est-ce que vous connaissez la durée du film? Est-ce que c'est en projet dès le départ ou ça s'impose au moment où vous fabriquez le film? Kevin Jerome Emerson.
For me, it's either a film has to be either 3 minutes or 8 or 480 minutes.
So pour moi, like c'est 3 minutes ou 480 minutes. Mais entre les deux, je ne sais pas bien me faire. Je crois que ça dépend du sujet, pour répondre à votre question. Donc, je décris ce que font des gens, et sur une période de 8 heures, un de mes grands artistes préférés, Lav Diaz, un cinéaste philippin qui fait des films, des grands récits de 9 heures, et à mes yeux, plus on reste longtemps auprès de quelqu'un ou de quelque chose, plus on arrive à s'imprégner du sujet ou de la personne. Ça, c'est le format qui me plaît le plus. Et même dans un film de 3 minutes, en réalité, c'est une seule prise très longue. Donc on s'investit, on plonge dans le sujet. Et quand on regarde la personne que l'on filme, eh bien, il y a une espèce d'histoire en creux qui se développe aussi. Donc, lorsque les choses ont le temps de pouvoir se déplier, s'épanouir dans le temps, je suis satisfait. Et si j'arrive à bien saisir la structure narrative.
Mais c'est intéressant que vous parliez de Lav Diaz, qui est connu effectivement pour ses plans séquences extrêmement longs et cette manière de solliciter aussi la participation du spectateur, qui parfois se demande ce qu'il voit, qui doit reconstituer presque et mettre de lui dans le film pour comprendre. Est-ce que vous avez le même rapport avec le spectateur? Est-ce que vous attendez de lui qu'il construise le film avec vous d'une certaine façon?
I guess that's the viewer's option.
Oui, ça dépend de différents facteurs, ça dépend comment on voit les choses. Quand j'ai commencé à me lancer dans ces films très longs, les gens étaient dans des dispositions différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont tendance à zapper, à moins pouvoir se concentrer aujourd'hui. Mais moi, quand je fais des films, je m'intéresse surtout au sujet. Donc, je m'investis dans le sujet plus que dans ce que pourrait penser le public. C'est pourquoi mon portefeuille n'est guère enviable. Donc, moi, j'aime bien cette idée qui consiste à s'intéresser plus au sujet qu'à ce qu'on va penser le spectateur. Voilà, moi je fais mes films pour le sujet, pas pour le public. Mais en même temps, il y a des aspects formels. Soit je fais venir le spectateur dans le récit, ou alors je l'éloigne parfois du récit que je porte.
Mais vous dites même, j'ai lu dans un de vos entretiens, que vous aimez bien que la personne que vous filmez soit plus maligne, que soit plus intelligente que la personne qui va regarder le film. Vous dites c'est plus smart. Qu'est-ce que ça veut dire?
Yeah, I like I like throwing the viewer in the middle of a situation.
Oui, j'aime bien que le spectateur soit propulsé au milieu d'une situation. Mais d'abord, j'aime bien les situations où la personne que je filme est plus astucieuse, plus maligne, comme vous dites, que le spectateur, pour que le spectateur puisse être en situation de courir après le personnage. Et j'aime pas que les gens expliquent les choses de façon didactique aux spectateurs. J'aime bien que on parle d'un sujet pour que le sujet soit lié à ce qu'on crée, vous voyez. J'ai un film qui s'appelle 10-5 in a Grass. Là, c'est une histoire de rodéo, c'est ce que font les cow-boys avec leur lasso. Donc eux, ils comprennent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font, mais ils vont pas l'expliquer de façon pédante et tout. Ils l'expliquent tout bonnement comme ils le feraient à leurs collègues, et c'est au spectateur de se débrouiller pour comprendre ce qui se passe. Et parfois, j'espère en tout cas que le spectateur apprécie cela. Pour moi, ça résulte de cette culture ouvrière dont je suis issu. Les gens sont fiers de ce qu'ils font, mais en même temps, ils répètent leurs tâches à l'envi au point de devenir des experts. Ainsi, le spectateur, lui, a un sens de créativité, d'artisanat, et je pense que le spectateur apprécie cela, du moins je l'espère.
Mais c'est ce qui est très frappant dans votre manière de filmer l'usine, par exemple. On a parlé de Park Lanes, on pourrait parler de Quality Control aussi, qui est un film sur un grand pressing industriel, où vous montrez la répétition des tâches, mais ce que vous montrez, c'est le savoir-faire, précisément, et ce n'est pas l'esclavage de l'homme à la machine, comme d'autres films qui vont se passer dans des usines vont pouvoir le faire pour dénoncer la machinisation du corps. Vous, c'est précisément la précision du geste qui semble vous intéresser.
Moi, j'ai travaillé en usine quand j'étais étudiant. Et quel que soit le produit ou le processus, si vous prenez une machine à laver ou un pressing, par exemple, on prend ça pour acquis, vous savez, vous mettez le truc dans la machine et puis ça ressort, c'est fait, bon, très bien. Mais il y a des gens qui interviennent entre-temps. Et parfois, on a tendance à oublier l'aspect humain du travail, même s'il y a une machine qui sert à faire le travail. C'est en fait rendre l'invisible visible, c'est ça qui m'intéresse.
Mais ce que vous montrez aussi, c'est qu'entre la répétition de ces gestes, il y a toute une vie qui se passe. On rigole, on parle à ses collègues, on est parfois fatigué. Et c'est aussi cet élément très quotidien que vous voulez enregistrer, Kevin Jerome Everson.
Oui, il y a plein de gens qui, en fait, partent du principe que les gens sont accablés par le travail. Mais en fait, les gens sont fiers de ce qu'ils font. Ils aiment bien leur travail. Ils y prennent un certain plaisir. Ils aiment bien faire un travail de qualité. Mais cet aspect de répétition m'intéresse. C'est un petit peu comme un musicien, d'ailleurs. Les gens s'entraînent, travaillent, et ainsi de suite, et améliorent leur art. Et moi, quand je filme quelque chose, je me dis, oula, cette personne-là a vraiment des gestes super précis et travaille vachement bien. Donc, j'essaye de mettre ça en valeur avec ma caméra. J'essaye de montrer ce talent, quel que soit ce talent et quel que soit l'objet ou la finalité de ce talent.
Est-ce qu'il y a aussi chez vous, Kevin Jerome Everson, le désir de conserver ces gestes-là, de enregistrer quelque chose qui peut-être un jour aura disparu, d'enregistrer aussi un mode de vie en général, puisque les sujets que vous filmez ne sont pas seulement au travail, ils sont dans leur vie quotidienne, ils sont parfois en train de faire du sport, en train de chanter, en train de simplement discuter devant une église, ou chez eux. Enfin, est-ce qu'il y a un côté conservatoire de cette vie-là dans votre travail?
Non, pas vraiment. Je me projette pas vraiment dans l'avenir. Je m'intéresse au présent. Je m'intéresse peu à ce qu'on pourrait penser dans 10 ans. Du reste, je me demande même pas si les gens vont regarder le film la semaine prochaine, vous voyez. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de montrer les choses. Si c'est au cinéma, ça va être montré, ça va être vu. Donc, moi, je veux qu'un film soit exposé et Moi, ce que je veux, c'est montrer les gestes et je veux montrer le matériau du film, le sujet auquel je m'intéresse. Donc, pour répondre à votre question, je m'intéresse davantage au présent, à ce qui se passe dans le moment présent, plutôt que d'avoir un souci d'archivage.
Qu'est-ce qui se passe au moment présent où vous tournez? Quelle est la nature de la relation que vous établissez avec vos sujets? On pourrait presque les appeler des modèles par moment. On devine, notamment dans vos premiers films, que certaines personnes, vous les connaissez bien, sont des membres de votre famille. D'autres, probablement, vous n'avez aucun autre rapport avec eux. Quelle est la distance juste que vous trouvez au moment du tournage?
Yeah, well, I think... Especially, well, when the relatives or friends of mine, I was like,
donc,
I usually like, well, I want
quand
you
je tourne avec des amis ou des gens de ma famille, je dis, je veux, je leur dis, j'utilise cet objet-là comme un fer à repasser, puis je vais te filmer, d'accord? Donc, bon, alors, je filme alors qu'ils repassent un vêtement, ça ne leur plaît pas toujours, mais moi j'aime bien. Et quand c'est avec des gens que je ne connais pas,
il s'établit une espèce de discipline,
parce qu'en fait, il faut vivre avec les gens, les côtoyer pour mieux travailler. Mais en toute honnêteté, moi, je dis aux gens, écoutez, ça fait un moment que je vous regarde, c'est génial ce que vous faites, c'est vachement intelligent, je voudrais vous filmer. À mon avis, ce que vous faites, c'est un geste artistique, en quelque sorte. Hein. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec ma caméra. Donc, j'explique ça. Et les gens comprennent ce que je fais. Alors, je leur dis, on va faire un film, on va faire un montage, on va faire une bande son. Je leur explique la vérité hein, de mon travail. J'essaye pas de mentir. Donc, parfois, je deviens ami avec les gens avec qui je tourne. Il y a des mécaniciens avec qui je suis devenu très bon pote. Hein. Mais, en fait, j'explique les choses, encore une fois, dans le présent. Je veux qu'ils soient dans le présent. Je veux pas qu'ils se relâchent. Je veux qu'ils fassent leur travail en se concentrant comme d'habitude, comme ils le font habituellement. Donc, je leur montre que j'apprécie leurs gestes, leur travail, et ainsi de suite. Et ça, ça leur plaît. Ils en deviennent d'autant plus fiers.
Jérôme Everson. Ce qui est très frappant par votre mise en scène, votre façon de filmer, je parlais de distance, c'est qu'on sent quand même votre présence dans les films. On n'a pas votre voix off qui poserait des questions aux personnes que vous filmez, mais vous êtes là et vous affichez presque votre présence. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour montrer que faire un film, c'est aussi du travail au même titre que les travailleurs que vous allez filmer?
Bon, moi, je travaille pas autant que les ouvriers que je filme, hein, mais bon.
Mais
c'est un peu comme la réalisation d'un tableau, d'une peinture. Dans mes projets actuels, plutôt que d'avoir un chevalet, une toile et des pinceaux et de peindre un paysage. Moi, j'ai mon trépied, ma caméra, mes focales. Et c'est des peintures que je fais avec ces outils-là. Des tableaux. Le spectateur
et
le sujet, le personnage que je filme, sont conscients du fait que je suis en train de créer quelque chose. Et la caméra, c'est la preuve de la présence. Et donc l'artiste, en l'occurrence, pas le peintre, mais le cinéaste, est présent. Par exemple, au Louvre, quand on va voir la Joconde, Léonard de Vinci, il est présent. Hein. on voit que ses gestes sont présents. Donc à un moment donné, on sait que Léonard de Vinci a existé. Et moi, j'aime bien faire des films comme ça, sans pour autant me comparer avec Léonard de Vinci. Hein. Le sujet sait que je suis là. Le spectateur sait que je suis là. J'essaie pas de masquer les choses. Hein. J'essaie de rendre les choses visibles. Je rends l'invisible visible. Hein. Je vous l'ai dit dans mes premiers films. La présence, je la marquais par le fait que je tiens la caméra à la main ou à l'épaule.
Mais
mes amis se sont foutus de moi et disent, bah, il faudrait peut-être que tu t'achètes un trépied, comme ça l'image serait stable. Bon, oui, très bien. Mais si je fais ça, je perds cette présence humaine. Les gens vont se dire, ah ben, il y a une caméra là sur un trépied, mais il n'y a personne derrière la caméra. Mais plus j'utilise le trépied, je m'aperçois que le spectateur peut penser qu'il y a quand même quelqu'un derrière cette caméra. Une caméra, ça ne marche pas tout seul. Donc, je réfléchis beaucoup à ça. Je veux que les gens comprennent que c'est un geste artistique que j'essaye d'accomplir. Et le fait d'avoir la caméra à l'épaule, c'est un petit peu comme de l'expressionnisme abstrait, vous voyez, avec des coups de pinceau sur la toile. Mais maintenant, avec le trépied et les focales, et puis en utilisant des images d'archives, des choses comme ça, je crois que j'arrive à montrer la présence malgré le fait qu'il y ait un trépied. Non, mais en tout cas, votre question est vachement intéressante. Et j'espère que j'y ai répondu.
Mais, oui, tout à fait, et je vais même la prolonger, parce que plutôt que de Vinci, même si on va y retourner un peu, je vous rapprocherai plutôt, effectivement, de Rauschenberg d'un côté ou des grands peintres abstraits qui sont apparus au XXe siècle, dans la mesure où vous affichez presque la matérialité du support. Quand vous tournez en pellicule, on va voir les amorces, on va voir le moment où la mise au point n'est pas tout de suite faite, on va voir des moments de désynchronisme avec le son. Il y a aussi un jeu très matériel, et c'est là votre côté sculpteur aussi, avec la matière filmique. Que vient de dire mes personnes.
Yeah, absolutely. Yeah, again,
oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Encore une fois, ce sont des gestes artistiques visuels. C'est un petit peu comme la palette. J'ai la palette du peintre. Je veux qu'il y ait tel ou tel élément dans le film pour que le spectateur sache qu'il y a un artiste qui réalise tout ça. Et par ailleurs, l'aspect de l'abstraction, je le vois de la façon suivante. Je veux que le film fasse référence à lui-même. Tout est important. Le son, ou alors l'absence de son, ou alors la texture, la couleur, la granularité de l'image, l'utilisation de la focale. J'explique au spectateur que cet objet n'existe que parce que c'est moi qui ai choisi de vous le montrer comme ça. C'est pas une fenêtre sur la réalité. Hein. Les gens ne peuvent pas se dire, ah oui, c'est des Afro-Américains, ils travaillent dans des usines, c'est la réalité. Non, tout est conçu par moi, en réalité. C'est un petit peu comme si quelqu'un posait, pour moi, vous avez parlé de modèle, mais c'est ça, oui. Donc, moi, je suis comme un sculpteur qui essaye de donner une interprétation de ce qu'il a en face de lui, mais donc référence, auto-référence. Et donc, mes films n'ont pas besoin de public, en réalité. Pas besoin de public pour valider le film ou les relations. Je crois que les relations entre les objets, le sujet, la personne, l'artiste, tout cela, c'est autonome et c'est autosuffisant. Donc l'aspect de la matérialité, c'est très important. Donc certes, il y a des aspects de personnalité, de politique et ainsi de suite, mais la matérialité formalisée, c'est ça qui me fait avancer.
Alors, c'est d'autant moins la réalité, entre guillemets, parce que toute la question du cinéma, du réel, est remise sur le tapis chaque année, notamment par le festival parisien du cinéma du réel. C'est qu'il y a beaucoup d'interventions de votre part dans vos films. Ce ne sont pas des simples prélèvements de la réalité, c'est une vraie représentation de cette réalité. Il y a notamment le fait que vous construisez parfois des sculptures, vous fabriquez des sculptures qui se retrouvent dans vos films. On n'est pas obligé de le savoir, mais quand on apprend que un film comme The Island of St. Matthew, un film qui raconte notamment les inondations qui viennent régulièrement dans le bassin du Mississippi, il y a une cloche d'une église, et bien cette cloche, c'est vous qui l'avez fabriquée. Ou il y a un autre film qui s'appelle en français FI 26, sur deux hommes qui vivent de récupération de métaux, qui vont dans des maisons abandonnées, qui prennent des bouches d'égout. Eh bien, l'outil dont ils se servent pour cela, c'est vous qui l'avez fabriqué aussi.
Oui, je fabrique des accessoires pour mes films, mais c'est pour mon propre bénéfice. Et quand je fabrique les accessoires, je réfléchis au film en même temps. Donc, The Island of St. Matthew, j'ai réfléchi à la façon dont la cloche avertit ou fournit des informations à la population. L'église avait une cloche défectueuse. Donc, moi, j'ai dit, bon, ben, attendez un peu, et dans 6 mois, je reviens avec une cloche, je leur ai dit ça. Mais cette cloche est devenue un élément central du film. Et dans le film Erie, il y a un tableau. Et ce tableau, c'est moi qui l'ai fait. Un tableau avec une affiche. Dans les années 50, dans le sud des États-Unis, il y avait des grandes affiches qui étaient en fait des offres d'emploi pour les Afro-Américains à l'époque, donc des grands panneaux comme ça. Et si ce genre d'accessoire n'est pas à ma disposition, eh bien, j'ai pas d'autre choix que de le fabriquer moi-même. Mais d'un autre côté, ça m'aide à comprendre les choses. Et dans FE 26, ça m'a permis de comprendre le poids, la matérialité auquel les personnages sont confrontés. Et ça me permet de cadrer la situation. Oui, non, c'est très utile pour moi.
On voit vos films dans le cadre du cinéma du réel, donc on se dit que ce sont des documentaires, mais très souvent, le doute s'instille dans l'esprit du spectateur. Alors parfois, vous le montrez très clairement, je pense à un film comme Golden Age of Fish, où on a une comédienne, manifestement, qui joue plusieurs personnages, mais si on ne voyait qu'un bout de ce film, on pourrait croire simplement que c'est le portrait d'une géologue, par exemple. Et puis dans Erie, cette succession de films montés les uns avec les autres, qui ont la durée d'un chargeur de pellicule de 16 mm, donc ça dure 11 minutes, à chaque fois, ce sont en fait des recréations. C'est vous qui mettez en scène ce réel. C'est là que je parlais de représentation et pas simplement de captation du réel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je peux utiliser la réalité comme un artefact formel aussi. Donc, dans ces films que vous avez cités, Golden Age of Fish. Ça devait être montré dans un festival. Personnellement, ce film, c'est pas de mes préférés parce que bon, c'est un film important quand même pour moi, parce que après avoir fait ces grands films très longs, je me suis dit, ben voilà une image géniale. Il faut qu'elle soit à l'écran pendant 2 heures. Bon, bref. Mais je crois que pour moi, c'est pas un documentaire, vous l'avez dit, c'est un film expérimental, voilà. Et les relations qu'il y a, bon, dans ce film-là, il y avait des images d'archives, il y avait des images qui semblaient être celles d'un documentaire, mais en même temps, c'est un film expérimental, donc il y a une espèce de, comment dire, un code, ou c'est une description de la relation formelle établie entre les gens. Donc, je veux que le spectateur sache qu'à un moment donné, il ou elle regarde un film expérimental, et surtout pas un documentaire ou un film avec une histoire. Parce que je recrée des éléments de la réalité, mais à titre expérimental, vous voyez.
On peut prendre un autre exemple, The Island of St. Matthew, dont on a parlé. Il s'agit aussi de filmer une rivière autour de cette île et de faire comprendre comment ça circule à l'intérieur. Et alors, ce qui est très surprenant, c'est que vous reconfigurez manifestement tout cet espace par le montage, en juxtaposant un barrage, une scène de baptême. Donc on a l'impression que le baptême ne se passe pas dans la rivière, mais dans le réservoir même du barrage. Et vous avez cette idée de mettre quelqu'un qui fait du ski nautique, qu'on va suivre longuement. Est-ce que c'est pour une solution de mise en scène pour montrer ce qu'est la géographie de ce lieu?
Absolutely, it's totally solution.
Ah ben voilà, c'est la solution pour montrer le lieu.
Well, like the island of St. Matthews, it doesn't really exist because it's not really. I'm the one who called it.
Island of St. Matthews, c'est moi qui l'appelle comme ça.
C'est île.
Mais en fait, il a été fait un dragage de la rivière qui a créé cette île. Et il y a des gens qui vivent là sans savoir que c'est une île. C'est moi qui leur ai dit que c'était une île. Donc bref, on revient à la personne qui fait du ski nautique. Ça montre qu'il y a des loisirs, mais ça me permet également, parce que je voulais filmer la rivière, en réalité c'est une astuce de dessin, donc je voulais qu'un personnage présente au spectateur le terrain, en l'occurrence la rivière. La meilleure façon de voir la rivière, c'est pas simplement un type qui fait du ski nautique, mais comme vous le dites, c'est le paysage derrière la personne qui joue un rôle important. C'est ça que je veux montrer. Mais comment montrer le paysage? Je me sers du gars qui fait du ski nautique, parce qu'on fait du ski nautique autour de l'île. C'est pas très important pour le spectateur, mais pour moi, c'est important pour pouvoir montrer le paysage qu'il y a tout autour. D'où la solution, la petite astuce du gars qui fait du ski nautique. Bon, il n'y a pas de bateau, hein. On monte simplement la rivière, le ski nautique et le paysage derrière. Donc, on ne s'intéresse pas tellement à ce qu'il y a au premier plan, mais ce qu'il y a à l'arrière-plan, avec le personnage au milieu. Voilà, donc il faut absolument se débarrasser du bateau et surtout pas montrer le bateau non plus.
Mais ça, c'est votre côté, Léonard de Vinci, puisque vous en parliez tout à l'heure. C'est la grande leçon de la peinture de la Renaissance. On peut se dire que ce qui est intéressant dans la Joconde, c'est pas la Joconde, c'est le paysage qui est derrière. Mais pour que le paysage ait une existence, il faut qu'il soit habité. Et c'est ce que vous faites dans vos films. Très souvent, vous mettez des personnages pour rendre des lieux habités.
Oui. Madonna and Saint Anne.
En réalité, c'est la Madone et Sainte Anne. Ça, c'est ce qu'elle
dit. Nobody's standing in front of this painting. They should be standing.
En réalité, il y a un tableau où on voit pas de spectateurs. Mais en réalité, il y a des tableaux qui sont exactement ce que vous dites. Peu importe les personnages qui sont au premier plan, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le paysage, l'arrière-plan. Mais le fait d'avoir un personnage, ça établit une relation différente, un point de vue différent. C'est très important pour moi. Et j'ai fait ça dans plein de films. Dans Sound Act, je fais ça aussi. Parce que ce sont des gars qui travaillent pour le service des eaux de la ville de Cleveland. Et là, le paysage joue un rôle important parce qu'on est à l'est de Cleveland, quartier essentiellement afro-américain. Et du point de vue de l'histoire contemporaine, c'est important parce qu'il y a eu beaucoup de soulèvements de la population. Là, il y a eu des flics qui ont tiré sur des noirs et puis il y avait un serial killer où les flics n'ont pas bien fait leur boulot, ils ne l'ont pas attrapé. Donc là, je veux montrer le paysage, mais en l'occurrence, le paysage social dans ce film-là.
Mais là encore, quand vous abordez justement des faits divers tragiques, comme c'était le cas dans Golden Age of Fish, où une femme est tuée par son compagnon qui va se suicider ensuite, ou dans un film que je trouve extraordinaire qui s'appelle Ears, Nose and Throat, c'est-à-dire les oreilles, le nez et la gorge, qui est en apparence une consultation ORL d'une jeune femme, et qui est en fait le moyen de parler d'un fait divers tragique qui est la mort d'un jeune homme tué par son ami dans la rue.
And then, right while he's looking, Chris bends down and shoots Dakario again. And the police officer saw it, so he comes speeding across the street. He didn't even stop his car, you know, in time. And he got out and he went to chase Chris. And Chris turned around and pointed his gun at the cop, but it didn't do anything. And then he took off running. And the cop came back to Cario. And I could, from my porch to where they were standing, I could hear him, like, trying to breathe and trying to talk. And the cop was telling him just, you know, keep calm, don't try and talk. And then the ambulance came.
Vous trouvez souvent ce genre de biais pour ne pas affronter ces histoires-là de front et les rendre de fait beaucoup plus poignantes pour le spectateur. Kevin Jérôme Everson.
Oh yes, like absolutely.
Oui, c'est exactement ça.
And those two films are interesting because.
Oui, ces deux films que j'ai été sont intéressants de ce point de vue-là.
I never talked about that film, but yeah.
Alan de Saint-Matthews, c'est très rare que je parle de ce film-là, mais bon, on en parle avec vous. Mais je voulais en fait mettre en examen, en quelque sorte, le paysage. Parce que je reviens à ce que vous dites. Hein, j'ai un ami, et quand on avait 13 ans à peu près, sa mère a été tuée par son amoureux, pratiquement sous ses yeux. Je voulais pas recréer ça. Mais pour revenir à cette notion de paysage, de cadre, je voulais en fait convoquer à charge, en quelque sorte, le paysage. Expliquer que le paysage, en l'occurrence, le contexte social, joue un rôle super important et peut être rendu coupable. Donc, ça se passe le soir. C'est, je reviens à ear, nose and throat. Hein. Donc, on a les consultations, on a le cadre familial, on voit le personnage qui vient pour être examiné par le médecin. Et on voit, on entend la voix de la personne. La voix de la personne est éraillée. Il y a un petit souci de ce côté-là et par ailleurs. Et ce dont elle parle, ça devient le sujet du film. Donc, dans, au sein même du film, le sujet change, le sujet évolue. On croit que c'est la nuit, on pense que c'est une visite chez l'ORL, mais en réalité, le sujet change de sujet et on parle à ce moment-là de son histoire. Je ne sais pas si je suis en train de séduire le spectateur, mais en réalité, j'aime bien dérouter, dévoyer les choses pour changer le sujet du film au moment où on ne s'y attend pas.
On peut prendre un autre exemple, Tonsler Park, un film plus récent pour vous, qui date de 2017. Alors, le spectateur non préparé, on dira, verra à l'écran quelque chose d'admirable déjà, qui sont des gens qui tiennent des bureaux de vote, qui, voilà, pendant 86 minutes, on va voir des gens tenir des bureaux de vote et des gens voter, qui viennent régulièrement obturer la caméra, puisque là encore, vous avez choisi une certaine distance pour filmer vos sujets. Et puis, si on apprend après que Tonsler Park, c'est un quartier de Charlottesville, qu'on se souvient de quelles élections il s'agit, puisque ce sont probablement les élections présidentielles de 2016. On se souvient que Charlottesville, à l'époque, avait fait parler d'elle dans les médias pour d'autres raisons, à cause des défilés nazis qu'il y avait. Et puis on réfléchit après à des déclarations de Trump, on réfléchit à toutes les stratégies employées pour éviter que les Afro-Américains aillent voter dans les bureaux de vote. Mais là encore, ces questions extrêmement politiques, vous les abordez de biais. Kevin Jerome Everson.
Yeah, totally. Yeah, because Tonsler Park was about.
Oui, Tonsler Park.
It's mostly about labor, you know,
c'est
about
en fait une histoire de travail. Encore une fois, je veux rendre l'invisible visible. Les gens viennent, les électeurs, ils viennent, ils mettent leur bulletin dans l'urne, très bien, mais ils se soucient peu des gens qui travaillent à tenir le bureau de vote. Mais par ailleurs, je voulais également jouer avec ma palette de peintre, hein, avec mes pinceaux, en l'occurrence mes focales. Je voulais à tout aplatir grâce au téléobjectif. Mais je voulais faire un film à la Flickr, parce que, encore une fois, on zappe, on change de sujet dans le film. On voit la personne qui travaille à tenir le bureau de vote, mais évidemment obturée, comme vous dites, par les électeurs. Mais en réalité, il s'agit aussi de l'élection de 2008. Obama était élu. Moi, je me souviens que j'ai passé une nuit blanche. Je me suis levé très bonheur pour aller voter. J'ai rien dit de toute la journée. J'étais très mal à l'aise. Je me sentais bizarre. Mais en réalité, il y a un élément de l'élection de 2008 aussi dans ce film. Mais c'est pourquoi j'ai choisi le noir et blanc. Comme ça, on ne sait pas très bien si c'est l'élection de 2016, l'élection de 2008, on ne sait pas très clair. Donc, il n'y a aucun élément qui vous indique cela. Il n'y a même pas de technologie. On ne voit rien. On ne peut pas savoir. C'est hors temps.
Kevin Jerome Everson. Ce côté hors temps de vos films, justement, m'a beaucoup frappé parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre le présent et le passé. Je reprends The Island of St. Matthew, par exemple, où on va parler d'inondations et des traces des inondations. Alors, la plus importante était celle de 1973, mais parfois ça remonte même au 19e siècle où quelqu'un va dire, vous voyez, c'est cet endroit, avant, il y avait des maisons qui ont été emportées par l'inondation. Il y a aussi cette façon d'enregistrer une parole, une façon de parler qui peut-être va disparaître. Je pense à ce personnage qui s'appelle Charlie the Hook, un homme qui a un crochet à la place de la main et qui parle sans doute d'une manière qui va disparaître pour son accent du Sud. Et je pense enfin à un très beau film qui s'appelle Black Bus Stop, qui se passe à un endroit important de l'université de Charlottesville, hein, si j'ai bien compris, où des jeunes étudiants d'aujourd'hui vont par la danse, par le chant, reprendre aussi des histoires qui sont celles des luttes contre la ségrégation et qui parfois remontent encore plus loin. Il y a chez vous cette volonté justement de concilier le présent et le passé, Kevin Jerome Everson?
I don't think we have a choice. Bringing the present and the past.
En réalité, on n'a pas le choix. Yeah, le présent découle du passé. Les deux sont liés. Island of St. Matthew.
I got the Charlie Smith.
Oui, le Charlie Smith, là.
I think when I was, because that film was completely written.
Like, I wanted to certain scenes. Complètement écrit. Hein. Je voulais certaines scènes. J'ai tout préparé, tout conçu. Et j'avais même un agent d'assurance qui explique les politiques d'assurance les polices d'assurance en matière d'inondation.
Et Charlie
parle. Avant de tourner le film, je suis allé à un enterrement, je me souviens.
I don't know anything about the Bible. I learned about Christianity like in our history, so I'm
just, not really a bon, il y a un passage de la Bible, ça m'échappe un peu. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement chrétien. Bref, il y avait
preacher consoling the family during the funeral.
L'homme d'église là qui consolait la famille en lisant des versets de la Bible. Donc moi je suis allé voir le pasteur de Mississippi et j'ai dit, est-ce que ce passage-là de la Bible pourrait réconforter les gens? Et donc, la personne que j'ai choisie pour lire ça, le fameux Charlie, a une histoire incroyable. Il a perdu une main, il a perdu un bras, donc il a une histoire à raconter. Et en réalité, moi, je ne pensais pas qu'il allait raconter cette histoire. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Nous, on a allumé la caméra, on a branché la caméra, point final, on l'a laissé faire. Puis il a parlé de ses faiblesses, ses vulnérabilités, son histoire.
That day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. May God add a blessing to the reading of His word.
Kevin Jerome Everson.
Moi, j'aime bien quand il y a un récit sous-jacent. Et parfois, je ne le montre pas, mais particulièrement lorsque l'on fait ce genre de film, j'essaye d'avoir une sorte de récit formel. Donc, si on a un personnage qui a perdu un bras, de manière inhérente, bon, il a vécu quelque chose, ce gars-là. Donc, il y a cette espèce de récit en creux. Bon, à lui de voir s'il veut nous raconter son histoire ou pas.
Je vous remercie, Kevin Jerome Everson.
Thank you, right on, yeah.
Vous
Festival Cinéma du Réel, 41e édition, se termine demain. Vous pourrez, si ce n'est encore fait, découvrir un aspect du cinéma de Kevin Jerome Everson avec la projection de 8903 Empire, un film de 8 heures qui reprend le geste du film mythique d'Andy Warhol en 1964, Empire, en filmant en plan fixe les allées et venues de gens ordinaires devant une maison de vendeurs de crack située sur Empire Street à Cleveland. Ce sera à partir de 14h demain, donc dans la salle 2 du Centre Pompidou. Et l'entrée est libre. Certains des films de Kevin Jerome Everson ont été rassemblés en DVD, mais seulement aux États-Unis. On espère que la rétrospective exceptionnelle que lui a consacrée le cinéma du réel donnera des idées à des éditeurs français. C'est, paraît-il, en cours. Et puis, merci encore à l'impeccable Xavier Combes d'avoir interprété ses propos. Côté festival encore, c'est hier que s'est ouverte la 41e édition, là aussi, du Festival international de films de femmes de Créteil. Jusqu'au 30 mars, vous pourrez découvrir des films aux thématiques pas très éloigné de notre discussion avec Kevin Jerome Everson, puisque la cinéaste martiniquaise Eusanne Palsy, l'autrice de Rucas Nègre, Une saison blanche et sèche ou encore Aimé Césaire, Une voix pour l'histoire, elle en est l'invitée d'honneur. Elle y donnera une masterclass dans une demi-heure, aujourd'hui à 15h30. Le festival propose également, outre la traditionnelle compétition, une section parallèle intitulée Le grand mixage ou Comment aborder la diversité culturelle en faisant fi des préjugés de race, de classe, de culture ou d'identité sexuelle. Il y aura aussi un hommage à la cinéaste libanaise Jocelyne Saab, récemment et très précocement disparue, avec la projection de son film Dounia et de sa leçon de cinéma enregistrée au festival en mars 2008. C'est donc jusqu'au 30 mars à Créteil. Pour ce qui est des ressorties en salle, mercredi dernier, on vous rappelle les deux films de notre invité de la semaine dernière, Jerzy Skolimowski, son premier film inédit en salle, Signe particulier néant, et son chef-d'œuvre de 1982, Travail au noir. Il y a aussi l'impressionnant L'Arche russe d'Alexandre Sokourov, plan séquence d'1h35 dans les couloirs et tous les recoins du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, Ragtime de Milos Forman, dont nous reparlerons longuement la semaine prochaine, et puis une rétrospective Jean Renoir en 12 films. Le printemps commence bien. Et puis côté DVD, il y a cette merveille, belle et tragique, une histoire certes simple, mais absolument bouleversante.
Je suis d'abord allé prendre un café. La serveuse a été gentille. Elle a apporté un grand chocolat à Sylvie. Elle m'a demandé d'où
vous
je venais.
D'où?
Je lui ai dit que je cherchais une chambre. Elle m'a indiqué un endroit où j'en trouverais une. J'y suis allée tout de suite. On m'a répondu qu'on aurait bien voulu me prendre, mais qu'il n'y avait plus de chambre libre.
Elle est jolie, votre petite.
La patronne a trouvé Sylvie gentille.
Oui, qu'est-ce qu'il y a?
Elle a dit que c'était dommage de voir des gens à la rue. J'ai marché. J'ai marché longtemps. Et je n'ai rien trouvé. On me disait partout qu'il n'y avait pas de chambre. Ou bien, on me disait toujours la même chose, qu'on ne pouvait pas me prendre avec ma gosse. On me demandait ce que je faisais, si j'étais mariée, d'où je venais, si je ne connaissais personne à Paris.
Un jour de 1959, un huissier se présente à la porte de Marcel Hanoun, le plus méconnu des grands cinéastes français. Il se présente pour le saisir. L'homme est comme souvent sans le sou, mais heureusement pour lui, l'huissier est cinéphile. Il lui sort le dernier numéro des Cahiers du cinéma, lui montre un article de Noël Birch sur son premier long métrage, Une simple histoire. « C'est vous, ça ?» lui demande-t-il. « Il paraît que vous êtes un grand cinéaste. Je ne peux pas vous saisir. » Et il part comme il était venu. Cette anecdote, on la prend dans le livret qui accompagne l'édition en DVD pour la première fois, d'une simple histoire, un film tourné en 1958 qui montre déjà, un an avant Le Signe du Lion d'Éric Rohmer, une errance désargentée dans Paris et les soucis très concrets du logement, de logement et de nourriture que pose la précarité, le tout dans une économie de tournage tout à fait misérable et une forme au contraire extrêmement impressionnante qui évoque autant Robert Bresson qu'elle anticipe le travail d'un Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard qui dans un article d'art de l'époque également repris dans le livret du DVD écrira dans une de ses formules « La lapidaire dont il avait le secret. Vous n'aimerez peut-être pas une simple histoire et vous aurez peut-être raison, mais si vous n'allez pas le voir, vous aurez sûrement tort, Marco Souzal.
Oui, alors il faut rappeler d'abord qui est Marcel Hanoun, parce que malheureusement c'est un cinéaste un peu oublié, alors qu'il a une œuvre très importante. Il a réalisé une trentaine de films avant, dans les années 80 jusqu'aux années 2000, de faire des vidéos. Donc en tout, il y a une soixantaine d'œuvres. Il est mort en 2012. C'est une œuvre qu'on pourrait dire totalement indépendante, à la fois très libre et très rigoureuse dans sa forme. C'est un film qui a été tourné en 16 mm avec des moyens quasiment amateurs, avec l'aide de la télévision. Et il a été très remarqué à l'époque, même s'il a été un peu oublié depuis. Vous avez cité Noël Birch dans Les Cahiers du cinéma, Jean-Luc Godard dans A. On peut citer Jonas Mekas qui, après avoir vu le film quelques années après sa sortie, dira « Je n'ai pas le moindre doute que Marcel Hanoun soit le plus important et le plus intéressant des cinéastes français depuis Bresson ». Alors ce film est tiré d'un témoignage réel que Marcel Hanoun a recueilli, celui d'une mère célibataire qui vient du nord de la France, qui arrive à Paris avec sa petite fille, avec très peu d'argent, et qui peu à peu va sombrer dans la misère, jusqu'à se retrouver à la rue avant d'être aidé par une femme qui l'a aperçu avec sa petite fille par la fenêtre. C'est un récit qui, on l'a un peu entendu là avec l'extrême, n'a absolument rien de spectaculaire, qui ne surdramatise pas les choses. C'est la description très précise des faits qui conduisent cette femme à la rue. Une série de détails, de déconvenues, de petites humiliations. C'est un film qui raconte cette misère quotidienne avec une énorme précision, mais sans le moindre misérabilisme, pathos ou forçage naturaliste. C'est un film qui, par exemple, ne crée pas un suspense douteux sur la survie de cette femme, puisque c'est un récit qui est essentiellement constitué d'un long flashback, et donc on sait dès le début, d'une certaine manière, qu'elle sera sauvée. Et comme l'écrivait Godard à l'époque, en se souvenant du titre d'un film de Robert Bresson, justement, « Cette femme est condamnée à vivre », disait-elle. Et cette histoire tristement simple, qui pourrait être celle d'un film néo-réaliste au fond, dénuée de surdramatisation, on peut même dire que c'est cet aspect très dépouillé et clinique qui crée l'émotion, même s'il y a une part de lyrisme, mais qui est contenu essentiellement dans l'utilisation de la musique. Et ce dépouillement, c'est ce dépouillement qui fait bien sûr penser à Bresson, parce que comme Bresson, Hanoun ne compte que sur les moyens du cinéma pour créer de l'empathie et de l'émotion. Une attention extrême au visage, aux gestes, une attention très précise du cadre, un montage très elliptique. Et il y a un autre aspect qui est très bressonnant dans le film et essentiel, c'est le son, et notamment l'utilisation que le film fait de la voix off. On va le réécouter à travers un extrait.
J'ai pleuré.
Allons, ne vous en faites pas.
Madame Pommier m'a réconforté.
Vous me raconterez votre histoire ce soir.
Elle m'a dit, vous me raconterez votre histoire ce soir.
Mais si.
J'ai été étonnée, j'ai dit non.
Je vais être en retard.
Elle a dit si.
Je suis obligée de partir.
Elle a ajouté, je vais être en retard pour mon travail. Je suis obligée de partir. Je vais vous montrer l'appartement.
Ici, vous avez le réchaud à gaz.
Elle m'a montré la cuisine.
Là, le buffet avec les provisions.
Les provisions.
Il y a tout ce qu'il faut dedans, vous verrez. Il y a des pâtes, enfin, vous débrouillerez, hein. Alors, à ce soir.
À ce soir.
Au revoir. Au revoir.
Au revoir, madame.
Elle est partie. J'ai eu envie de l'embrasser.
Voilà, vous l'avez entendu, cette voix off, elle est pléonastique, elle raconte ce que l'on est en train de voir, elle reprend les dialogues au style indirect et au passé. Ça avait provoqué à l'époque des sarcasmes d'une partie de la critique et du public. Or, c'est ce qu'il y a notamment de très beau dans le film, parce que cette voix off, elle crée une distance, la distance de celle qui se raconte, qui donc a du recul par rapport à sa propre vie. À travers cette distance, c'est sa conscience de ce qu'elle vit qui passe. Une chose très importante dans le film, c'est aussi sa dignité qui passe dans cette blancheur de la voix.
Merci Marco Souza. Une histoire simple de Marcel Hanoun est édité par Revoir avec un livret bilingue reprenant les textes consacrés au film par Noël Birch, Raphaël Bassan et Jean-Luc Godard. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Morgane Danan et Jean Frédérics. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini. La semaine prochaine, plan large sur Milos Forman à l'occasion de la ressortie en salle et de l'édition en Blu-ray de son Ragtime. Nous serons avec Luc Lagier, producteur de l'émission Blow Up sur Arte, et de NTBIN qui nous parlera également des Forbans de la nuit de Jules Dassin, édité en coffret Blu-ray. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Christine Bernard.